C'est le moment de l'interview scientifique. Bonjour Monsieur Bardenzev.
Bonjour.
Alors vous êtes volcanologue et professeur d'université à Paris-Saclay. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur les volcans et régulièrement invité d'émissions de télévision et de radio.
Vous revenez tout juste d'Hawaï où vous avez pu observer de près les dernières éruptions. Un témoignage direct de l'activité interne du globe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Alors, les élèves sont impatients de vous poser leurs questions et on va commencer par Mathis.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ?
Oui, moi je suis volcanologue, donc j'étudie les volcans depuis très longtemps. Donc mon métier, il est multiple. Alors maintenant, je suis professeur émérite, mais quand j'étais professeur à part entière, j'avais une partie d'enseignement, donc j'avais des élèves d'université qui étaient à Bac plus 1, à Bac plus 8, et puis également, je faisais de la recherche, c'est aller sur le terrain. Donc comme tu l'as dit, quand il y a une éruption, je me rendais sur place, je prélevais les roches qui étaient libérées par le volcan, écoulées de lave. Mais au retour, j'analysais ça en laboratoire. Donc parfois, 15 jours de mission sur le terrain, ça pouvait faire plusieurs mois de travail en laboratoire. Donc d'analyse de roches, d'analyse chimique de minéraux. Puis après, il fallait écrire des articles en anglais dans des revues spécialisées pour expliquer ce qu'on avait compris, ce qu'on avait découvert. Voilà. Puis parallèlement à tout ça, il y avait l'administration. Il y avait également, j'écrivais des livres pour les grands publics, pour des jeunes comme vous. Il fallait s'adapter, comme vous dites, à l'actualité. Et parfois, il y avait des médias qui me sollicitaient, radio, télévision, quand il y avait une éruption. Et donc, j'y répondais toujours avec intérêt, bien sûr.
Yasmine, tu avais une question ?
Bonjour. Qu'est-ce qui se passe exactement sous Terre juste avant qu'un volcan entre en éruption ?
Oui, c'est très important parce qu'effectivement, le volcan, il est aérien, on voit une partie visible qui émerge, mais en fait, il y a toute une partie en dessous et qu'on ne voit pas directement, contrairement à ce que racontait Jules Verne. Donc maintenant, on sait tout ça par les ondes sismiques, par les roches remontées, donc on a une assez bonne idée de ce qui se passe. Donc on sait que le magma, c'est de la roche fondue, se forme vers moins 100 km de profondeur. Alors, c'est pas très profond, la Terre a un rayon de plus de 6000 km, mais c'est quand même profond, moins 100 km. Et puis le magma, comme il est liquide, il est plus léger, il a tendance à monter vers la surface. Donc par des fractures, il monte vers la surface, puis souvent il s'accumule dans une sorte de chambre magmatique où il va s'arrêter, il va se reposer un petit peu comme on fait dans une chambre, il peut se modifier, il peut évoluer, puis après dans un dernier temps, cette chambre est peut-être à moins 30 km ou moins 10 km, puis dans un dernier temps, il va monter de moins 10 à 0, il va sortir, et quand le magma arrive en surface, c'est l'éruption.
Sarah avait aussi une question.
Comment les volcanologues décident-ils d'évacuer la population autour d'un volcan ?
C'est pas le volcanologue qui décide, en fait, c'est les décideurs politiques. C'est le maire, le préfet, le ministre. Et donc, quand il y a une zone à risque, il y a une commission qui est établie avec des scientifiques et des décideurs. Et s'il apparaît que la coulée de lave s'approche trop près d'une zone habitée ou si des projections de cendres pourraient retomber sur des zones habitées, bien les scientifiques expliquent aux responsables ce qu'il en est en disant qu'à leur avis, ça peut devenir dangereux pour les populations qui sont exposées. Et à ce moment-là, donc, les responsables vont décider d'évacuer toute une partie d'une ville ou d'une région en fonction de l'importance de l'éruption. Alors bien sûr, c'est toujours compliqué, c'est une décision qui est grave à prendre, mais qui est vital, c'est peut permettre de sauver des gens. Et puis, en fait, comme on dit, on n'a en fait pas droit à l'erreur, parce qu'il y a des vies humaines en danger. Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez, bien sûr.
Rita avait une question en relation avec ça, justement.
Comment vit-on au quotidien quand on habite près d'un volcan actif ?
Ça, c'est effectivement, ça peut paraître étonnant, mais il y a des gens qui vivent près des volcans actifs. On pense même qu'il y a au niveau du globe peut-être 500 ou 800 millions de personnes qui vivent près d'un volcan actif, notamment autour du Pacifique, au Mexique, ça peut être aussi en Indonésie, mais également en Italie, en Islande. Les gens, ils vivent avec, ils font avec. Alors bien sûr, c'est un voisin encombrant, parce qu'il peut faire une éruption tous les 10 ans, tous les 20 ans. Mais si les gens vivent près des volcans, c'est qu'il y a des avantages, notamment pour tous les gens qui sont paysans, c'est que les volcans ont des terres fertiles. Donc en Indonésie, par exemple, on peut faire 3 cultures de riz par an au lieu d'une seule ailleurs. Donc le paysan javanais, il dit oui, le volcan, il tue une fois par siècle, mais il me nourrit tous les jours. Et je pense que les gens qui vivent près des volcans sont fiers de leur volcan. Si on leur disait, écoutez, on vous enlève votre volcan, je crois qu'ils diraient non. Actuellement, il y a l'éruption du Piton de la Fournaise, les Réunionnais sont fiers de leur volcan.
Eh bien, Yasmine, une question aussi.
Comment savoir si un séisme ou une éruption volcanique va avoir lieu ?
Oui, alors c'est également une question importante. C'est deux choses très différentes. On va dire que les séismes, on ne sait pas les prévoir. Parce que qu'est-ce qu'un séisme ? C'est une cassure, c'est une faille qui se casse. Les deux compartiments bougent l'un par rapport à l'autre. Et on va dire que avant, tout va bien et après, tout va mal. Donc, on ne sait pas prévoir les séismes. Bien sûr, on essaye de mieux comprendre. Il y a des sismologues qui étudient tout ça. C'est un des challenges du 21e siècle. Par contre, les volcans, on sait assez bien prévoir les éruptions, c'est différent. Alors, quand le magma monte sous le volcan, eh bien, ça se traduit par le fait qu'il y a des micro-séismes, des micro-secousses. Donc, on enregistre beaucoup de séismes qui sont très faibles, magnitude 1, 2. Mais par contre, il peut y avoir 1000 séismes par jour. Ça montre que le magma, il monte et qu'il secoue le volcan. Également, ce magma qui monte, il s'implique dans les fractures, donc le volcan, il gonfle un petit peu. Quand je dis qu'il gonfle, c'est tout petit par rapport à sa taille, mais c'est mesurable. Donc là, quand j'étais à Hawaï, justement, avant chaque paroxysme, il y avait une inflation, c'est-à-dire un gonflement du volcan, et après chaque paroxysme, il y avait une déflation du volcan. Également, quand le magma monte, le volcan il chauffe, donc les fumerolles qui sont émises par le volcan augmentent de température. Voilà, donc quand un volcan bouge, gonfle et chauffe, c'est mauvais signe.
Mathis avait une question assez pertinente.
Est-ce qu'un séisme peut déclencher une éruption volcanique ?
Alors, en général, non. Il y a eu quelques exemples. En fait, séisme et volcan ne sont pas directement liés l'un à l'autre. La cause est commune. Ce sont des plaques qui bougent, la Terre qui est active. Mais c'est rare que l'un entraîne l'autre. En tout cas, les volcans n'entraîneront pas un séisme ou très, très faible. Par contre, il y a eu des cas de séismes qui ont, alors peut-être pas enclenché une éruption, mais qui ont peut-être accéléré le processus éruptif. Donc, un volcan qui était sur le point d'entrer en éruption, il y a un gros séisme à côté, il rentre en éruption plutôt que prévu. Donc, c'est vrai, il y a un lien, mais il est ténu, hein, il est faible.
Sarah, une autre question ?
Quel a été le volcan ou le séisme le plus marquant de votre carrière ?
Alors moi, en volcan, c'est quand j'ai commencé ma carrière. Hein. C'est vrai que son premier volcan, on l'oublie jamais. Donc j'avais 25 ans, j'étais jeune assistant à l'université Paris-Orsay, Paris-Saclay, et j'ai eu l'occasion d'aller au Guatemala. Donc c'était en 1978, donc il y a longtemps de ça. Et je suis parti 5 semaines au Guatemala. Il y avait 3 volcans actifs, le Pacaya, le Fuego, le Santa Maria, Santiago. Et je les ai donc étudiés, j'ai ramené 400 kilos de roches. C'était le début de ma thèse d'État. Et c'est vrai que je suis rentré la nuit de Noël en 1978 et c'était mon cadeau de Noël, c'était mon voyage au Guatemala, c'était ma récompense, quoi. Et à ce moment-là, j'étais devenu, on va dire, quelque part, un jeune volcanologue professionnel, quoi. Voilà, j'avais commencé à faire mes premiers pas en volcanologie, qui en annonçait d'autres, mais ça a été un énorme souvenir, un énorme cadeau, et ça a été passionnant, bien sûr.
Rita va vous poser la dernière question de cette interview.
Quel conseil pouvez-vous donner à un élève qui aimerait devenir volcanologue ?
Déjà, c'est une bonne idée que s'il aime les volcans et s'il s'intéresse aux volcans, de tenter sa chance. Alors, c'est difficile. Les études, c'est 3-5-8. Hein, donc, après le bac, on fait 3 ans d'études pour avoir une licence, puis après 2 ans pour un master, puis après 3 ans pour un doctorat. Il faut être scientifique, être compétent en chimie, en physique, un peu en mathématiques, mais surtout en physique et en chimie. Et puis aller sur le terrain, ça veut dire aussi, pas besoin d'être un champion olympique, mais pour avoir une bonne santé, être un peu sportif, accepter l'inconfort. On peut parfois dormir dans une tente en pente sur un volcan qui peut faire du bruit, il peut pleuvoir, la météo n'est pas toujours très bonne, il peut faire froid en Islande, au contraire très chaud ailleurs. Voilà, donc il faut être adaptable, aimer la nature, la respecter, et puis également être curieux, se poser des questions, parce que la recherche, c'est pas quelqu'un qui nous pose une question, c'est nous-mêmes qui nous posons nos propres questions. Voilà, donc c'est un métier enthousiasmant, et c'est vrai que moi qui suis volcanologue depuis bientôt 50 ans, je sais jamais quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je travaille pas, parce que je fais de mon métier ma passion et vice-versa. Voilà, donc si quelqu'un veut devenir volcanologue parmi vous, ça sera très bonne idée, et je vous souhaite de réussir.
Merci beaucoup pour vos questions. Alors, on va peut-être lancer des questions que vous souhaitez. Mathis ?
Est-ce qu'un volcan peut changer de rocheux effusif ?
Voilà, alors justement, c'est un peu ça que je voulais développer sur la panique. On a parlé d'une éruption, on a parlé du magma qui allait de moins 100 km à zéro et qui sortait. En fait, il y a différents types d'éruptions. Et pour simplifier, en fait, il y a deux grands types. Il y a les éruptions rouges qui sont laviques, qui font découler de lave, on dit qu'elles sont effusives. Les éruptions grises qui font des blocs et des cendres qui sont explosives. Alors, il y a des volcans qui sont quasiment toujours effusifs. C'est le cas de la Piton de la Fournaise, c'est le cas du Kilauea à Hawaï. Il y a des volcans qui sont toujours explosifs, comme la montagne Pelée aux Antilles, par exemple. Il y a des volcans qui alternent. Alors, eux sont plus compliqués à comprendre, à interpréter pour les volcanologues. C'est le cas des deux grands volcans italiens, le Vésuve et l'Etna, qui ont eu des éruptions effusives et des éruptions explosives. Alors, est-ce qu'un volcan peut passer de l'un à l'autre ? Oui, il y a même eu des phases éruptive, où il y a eu, au cours de la même phase éruptive, un passage d'explosif à effusif ou l'inverse. C'est rare, mais ça peut arriver.
Merci. En fait, ils ont prévu un sujet dans le podcast qui parle de ces deux types d'éruptions volcaniques. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas trop développé, mais c'est intéressant de voir qu'on peut passer de l'un à l'autre. Lina, question suivante.
Bonjour.
Bonjour.
C'était pour savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à être volcanologue et pour quelles raisons particulières vous aimez tant les volcans ?
Ben, j'explique pas vraiment. Disons que j'ai toujours été passionné quand j'étais jeune gamin par la terre, par les minéraux, par les fossiles, par les roches. Moi, j'étais grenoblois. Hein. J'ai fait mes études à Grenoble. J'étais donc avec la famille, mes parents, mes grands-parents, on partait en promenade le dimanche et moi, je ramassais des fossiles d'oursins, d'ammonites, des cristaux de roche, de la calcite. Donc, j'ai commencé à faire une collection. Puis j'ai commencé aussi à avoir des livres explicatifs. Et quand j'étais en quatrième, donc quand j'avais votre âge, en fait, mon professeur de biologie géologique, qui s'appelait Henri Vestière, a proposé la création d'un club de géologie qui est né à ce moment-là et dont j'avais parti. J'étais le secrétaire général, le quatrième jusqu'en terminale. Et dans ce club de géologie, bon, c'est des visites de carrière, d'affleurement. On rencontrait des géologues. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Puis après, ben, j'ai pu faire mes études. Donc, j'ai passé un bac scientifique à Grenoble. J'ai fait 2 ans de prépa à Lyon. Puis après, je suis rentré à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, qui est maintenant à Lyon, qui est une grande école pour passer l'agrégation et le CAPES, puis faire une thèse d'État. Voilà, donc c'est un long parcours, mais passionnant. Et puis, on a toujours à apprendre. Maintenant, je dis, j'aime bien souvent dire que je suis à bac plus 50 parce que un jour où je n'apprends pas, c'est rare. On apprend toujours quelque chose quand on est curieux, quand on est scientifique.
Merci Nathan.
Qu'est-ce qui se passe si, en prenant un exemple, si vous êtes dans un des volcans à Hawaï et qu'au même moment, un autre volcan, par exemple le Japon, se met en éruption maintenant?
Ben oui, en fait, il faut savoir qu'on ne peut pas tout suivre. En fait, il y a à peu près 50 éruptions par an sur les continents et chaque éruption dure en moyenne 15 jours. Donc, c'est pas possible d'aller partout. Donc, effectivement, on va sur certains volcans qui nous intéressent plus que d'autres. Donc, c'est vrai qu'actuellement, il y a Hawaï en éruption, la Piton de Forêt en éruption, mais également au Mexique, le Tifón en éruption. Chaque semaine, on reçoit des États-Unis un message nous donnant les volcans en activité dans le monde. Et il y en a beaucoup. Donc, voilà, il faut savoir se limiter, aller sur les volcans qu'on connaît plus que d'autres. Puis, il y a un peu des zones qui sont qui intéressent les gens plus que d'autres. Bon, moi, j'ai travaillé beaucoup au Cameroun, parce qu'il y avait, dans le cadre du ministère de la francophonie, parce que le Cameroun parle français. Mais, par exemple, aux Philippines ou en Indonésie, ça peut être plutôt les Australiens ou les Néo-Zélandais qui auront aidé les gens. Enfin, voilà, donc, comme tu dis, effectivement, on ne peut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il faut faire avec. Voilà, il faut... La Terre est très active, il y a beaucoup de volcans, plus les volcans sous-marins dont on n'a pas encore parlé, donc ça fait beaucoup, ben voilà, ça prouve que la Terre est vivante, qu'elle est active.
Vous revenez d'Hawaï, vous venez de le préciser, on a vu des images assez impressionnantes de fontaines de lave. Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, avec votre œil de volcanologue ?
Bien, encore une fois, j'ai vu quelque chose que je ne connaissais pas. C'est vrai qu'actuellement, on a une éruption étonnante à Hawaï qui a commencé le 23 décembre 2024, donc il y avait plus d'un an. Ça se traduit par, donc, dans un cratère qui s'appelle l'Alemaumao, ça se traduit par des fontaines de lave qui durent quelques heures et qui s'arrêtent après pendant plusieurs jours. Donc moi, j'ai assisté au paroxysme 40, donc il y avait eu 15 jours sans rien auparavant. Puis un jour, à 8h du matin, voilà, une fontaine de lave a commencé à monter à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 250 mètres. Puis ça a duré 10 heures. Puis vers 18 heures, la nuit commençait à apparaître. Et bien, ça a décliné et ça s'est refermé comme si on fermait le robinet en une minute. Puis le cratère était rempli de lave, de coulées de lave. C'est étonnant, plus ça reprend. Là, il y a eu un paroxysme il y a 48 heures. L'inflation reprend, donc ça montre que le volcan gonfle encore. Et ça peut durer longtemps. À Hawaï, le Kilauea a fait une éruption qui a duré 35 ans. De 1983 à 2018, hein, quasiment sans discontinuer. Donc le Kilauea, c'est un peu un laboratoire volcanologique à ciel ouvert.
Merci. On entend souvent parler de supervolcans, par exemple sur le Yellowstone aux États-Unis. Le collège est allé avec une classe une année sur les champs phlégrés en Italie. Est-ce que c'est vraiment un terme scientifique ou c'est plutôt un terme utilisé par les médias ?
Non, c'est scientifique. Alors, pour savoir quand on parle, moi j'aime bien dire à mes étudiants que une éruption devient importante si elle produit 1 km cube de, par exemple, de cendres ou de blocs ou de bombes. Donc 1 km cube, vous mettez ça sur muret, vous pouvez étaler sur toute la Haute-Garonne, hein, c'est énorme 1 km cube. Et ben ça, c'est le début des éruptions importantes. Mais il y a, on va dire, une ou deux fois par siècle, des éruptions qui font 10 km cubes, comme il y a eu le Pinatubo aux Philippines en 1991. Puis une fois tous les quelques siècles, il y a 100 km cubes, comme il y a eu au Tambora en 1815 en Indonésie, ou à Santorin en Grèce il y a 35 siècles. Donc on était à 1, à 10, à 100. Mais une super éruption, c'est 1000 à 10 000 km3. Donc, on connaît des super éruptions qui ont eu lieu à Toba, à Sumatra, en Indonésie, comme on l'a dit, à Troyes, à Yellowstone. Donc, super éruptions sont formées par des super volcans qui font une éruption comme ça de temps en temps. Parce qu'il faut comprendre qu'une éruption qui est mille fois plus forte est mille fois plus rare, parce qu'il faut mille fois plus d'énergie. Donc, c'est partie des choses, les risques qui pèsent sur l'humanité. Ce n'est pas d'actualité. C'est sûr que s'il y avait une super éruption sur Terre, ça serait catastrophique. On ne sait pas quoi faire. Sachant que les probabilités sont quand même faibles.
Très bien. Nathan, tu avais une question aussi, je crois.
Quand on allait devant des volcans ou sur des volcans, on voyait dedans, ce n'est pas un espèce de cratère, mais avec une croûte, enfin, un espèce de sol.
Si le volcan est en éruption, le cratère est ouvert, donc on ne voit pas vraiment le fond. Mais quand un volcan s'arrête, des pierres, des bombes retombent au fond du cratère, donc le cratère est bouché. Donc effectivement, alors on peut parfois descendre, marcher sur le fond du cratère si c'est stable. Enfin, à ce moment-là, il vaut mieux être encordé. Donc c'est vrai, par exemple, j'étais allé sur un volcan qui s'appelle l'Ertalé en Éthiopie. Une année, il y avait un lac de lave. Quelques années plus tard, il était pétrifié. Il y avait une croûte de lave. Et on avait marché dessus en s'encordant pour aller voir les différents endroits de ce cratère.
Eh bien, en 1991, les volcanologues Katia et Maurice Kraft ont disparu sur les pans du mont Hanzen au Japon. On a toujours une pensée pour eux parce que dans les classes, on a souvent leurs photos et puis on a leurs vidéos que l'on passe et repasse. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations dangereuses sur le terrain?
Alors, c'est vrai que les Kraft, je les ai très bien connus. C'était un peu mon grand frère et ma grande sœur. Ils avaient pris une dizaine d'années plus que moi. Ils étaient très compétents. Ils faisaient des images magnifiques, des films magnifiques. Ils sont dans leur passion. Bon, c'est vrai qu'ils prenaient aussi des risques, hein, comme pour faire des belles images, ils s'approchaient de l'eau très près. Bon, moi, c'est vrai que parfois, j'ai été trop près de certaines éruptions et j'ai fait demi-tour. Voilà, j'ai eu aussi peut-être parfois plus de chance, mais je crois qu'il n'y a aucune honte pour un volcanologue à faire demi-tour devant une éruption, parce que entre un volcan et un humain, on n'est pas dans la même catégorie de poids, comme on disait en judo, quoi.
Très bien, merci. Pour terminer, quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui vous écoutent, hein?
Bien, d'abord que les volcans, c'est vrai que c'est parfois encombrant, mais que ils sont ni gentils ni méchants, ils font partie de l'écosystème. Le fait que la Terre ait des volcans, ça prouve aussi qu'elle est vivante, qu'elle est chaude, qu'elle est hospitalière, alors que la Lune ou Mars sont des planètes mortes. Étudier les volcans, c'est passionnant, et certains pensent peut-être qu'on a tout fait, que ma génération a tout fait, c'est faux. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait des volcanologues qui avaient fait beaucoup de choses, mais les techniques évoluant tellement avec vos pensées que quand j'avais l'âge des jeunes qui m'écoutent, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'ordinateur, pas de GPS, pas de mobile, pas de fax. Bon, comment faisait-on? Ben, on faisait quand même. Et donc, ça veut dire que pour les jeunes qui nous écoutent, dans les 40 ans à venir, il y aura encore des révolutions technologiques. Donc, on va apprendre encore beaucoup de choses. Et puis, je vous dis, il y a encore des terrains vierges. Donc, j'ai parlé des volcans sous-marins qui sont très peu connus. Puis, également, les volcans interplanétaires. Il y a des volcans sur Mars, sur les satellites de Jupiter et de Saturne qui seront intéressants à étudier. Donc, on va dire qu'il y a des tas d'études enthousiasmantes à conduire. Et c'est vous qui nous écoutez qui êtes les scientifiques de demain.
Très bien, merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour votre disponibilité.
Oui, je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon. Les questions étaient astucieuses et judicieuses. Donc, je crois que ça nous a permis de faire un tour d'horizon en une vingtaine de minutes de la volcanologie. Et c'est un plaisir d'échanger avec vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.